Nous avons donc essayé de comprendre cette critique de la vérité. Je crois qu'on a à peu près vu l'ensemble, puisqu'il n'y a pas de question. Ça prouve que vous avez bien compris. Et nous voyons tout de suite que la vérité, dans ce qu'elle a de plus formel, cette adéquation de l'intelligence à la réalité, telle que saint Thomas le donne dans le De Veritate, prend des modalités très différentes, suivant qu'on est en philosophie spéculative ou en philosophie pratique. Ce qui est sûr, c'est qu'une proposition est vraie quand elle est conforme à la mesure qu'elle atteint comme son absolu. Cette mesure est soit la réalité, soit un premier amour, soit l'inspiration. Et par là, on voit très bien comment la subjectivité transcendantale ne peut être vraie que dans l'ordre de la philosophie, que dans l'ordre de la connaissance artistique. Comment, dans l'ordre moral, l'amour peut lui aussi jouer ce rôle très important d'être une mesure, alors presque, je dirais, de sincérité plus que de vérité. Ce serait par là qu'on verrait toute la différence entre la sincérité et la vérité. Être sincère, c'est être conforme avec le premier amour. Affectivement, sincérité et vérité se tiennent. Très curieux. Point de vue affectif. Il faut dépasser l'aspect affectif pour découvrir la différence entre vérité et sincérité. Et ça explique pourquoi saint Thomas dit qu'on doit agir selon sa conscience, même quand elle est erronée. C'est le grand drame, ça. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est persuadé selon sa conscience de bien agir, est-ce qu'on doit le laisser agir selon sa conscience? Ou est-ce qu'on doit à tout prix l'empêcher? Prendre un revolver et dire, si tu avances, je te tue. Parce qu'il vaut mieux que tu meures que de rester dans l'erreur. Je t'aime tellement que je préfère ta mort que de rester dans ta fausse sincérité. Voyez ça. L'œcuménisme est-il basé sur la sincérité ou sur la vérité? Faut se poser tous ces problèmes-là au point de vue critique. On sera constamment devant ces problèmes-là. De plus en plus. Parce que l'aspect affectif augmente, augmente, augmente. Il y a tellement peu de personnes qui atteignent la connaissance spéculative. Quand tout le monde atteint la connaissance affective dans le monde d'aujourd'hui. Affectif et esthétique, les deux. La vérité spéculative. Alors, si vous n'avez jamais atteint la vérité spéculative, vous ne savez pas ce que c'est la différence entre vérité et sincérité. Alors, quand vous ne savez pas la distinction entre sincérité et vérité, est-ce que vous devez à tout prix éclairer quelqu'un? Alors qu'il est si heureux dans sa sincérité. C'est des problèmes extrêmement délicats au point de vue pratique. Le respect qu'on doit avoir de l'autre par rapport à sa sincérité, par rapport à sa conscience erronée. Et en même temps, la nécessité d'aller toujours plus loin dans l'ordre de la vérité. Et on touche là quelque chose de très important au point de vue pratique. Et la critique est là pour nous éclairer un peu, pas pour nous donner des solutions. Pas pour nous donner des solutions. La sincérité de quelqu'un, c'est très grand. C'est conforme au premier amour que j'ai pour toi. Je t'affirme que tout est conforme à cela. Donc je t'en fasse une sincérité absolue. Mais est-ce que c'est la vérité? La vérité va plus loin. Qu'elle doit dépasser l'amour que j'ai pour quelqu'un pour essayer de saisir son bien. Mais dans l'amour d'amitié, ce n'est pas l'amour que j'ai pour l'ami qui fait que je suis vrai. C'est en atteignant l'ami comme mon bien. Et non pas en fonction de l'amour que j'ai pour lui. En atteignant son bien. Je crois qu'au niveau, vous voyez, de la vérité, d'une connaissance affective, la vérité d'une connaissance affective, est-ce que sincérité et vérité ne s'identifient pas? Posez au moins la question. Conclue pas. Je vous laisse conclure. Ne soyez pas angoissés, hein, mais je vous laisse conclure. Est-ce qu'au niveau affectif, on peut faire, au niveau purement affectif, c'est-à-dire au niveau d'une connaissance affective, très très délicat. Autrement dit, dans l'ordre de l'amitié, sincérité et vérité, est-ce que c'est pas tout le temps? Pour pouvoir dire j'aime Platon et la vérité plus encore, il faut sortir de la connaissance purement affective. Connaissance qui recherche la vérité. Or, la philosophie recherche la vérité, même en philosophie pratique. Donc, si elle recherche la vérité en vérité pratique, elle va distinguer deux aspects. La vérité d'une connaissance affective personnelle. Et la vérité d'une connaissance affective philosophique. Je crois qu'on peut distinguer de cette manière-là. Au niveau personnel, vérité et sincérité entre amis se tiennent. Au niveau philosophique, je peux distinguer les deux. Je ne dis pas que mon éthique est finalisé par la sincérité. Je dis que mon éthique est finalisée par la vérité. Et la vérité, c'est donc que ce premier amour soit vrai. Et ce soit pas simplement du vécu. Oui. Sûrement. Oui, c'est pour ça qu'au fond, oui. La vérité d'un amour, d'une amitié, la vérité d'une amitié, qu'est-ce que c'est? Je vous affirme que l'amour que j'ai pour Jacques, pour Pierre, ah, c'est tout à fait authentique. Vous entendez ça dans le langage courant aujourd'hui. Quand vous dites tout à fait authentique, c'est que vous ne voulez pas trancher entre sincérité et vérité. Alors vous dites authentique. préciser, oui, très bien. Je ne doute pas que ce soit authentique. Est-ce que cette amitié est vraie? Quand vous posez le problème comme ça, vous sortez de la subjectivité pour parler en philosophe, il me semble. Parce que vous répondrez, oui, pour toi, je suis sûr que c'est vrai. Parce que c'est sincère. C'est authentique. Mais est-ce que, objectivement, c'est vrai? Et vous pouvez faire la distinction. Sorte que je crois que nous pouvons ajouter quand il s'agit de cette connaissance affective, dire connaissance affective intersubjective entre deux amis, connaissance affective dans l'étude philosophique. Alors, je pousse encore plus loin. Avons-nous le droit prudentiellement, de nous livrer à une pure connaissance affective intersubjective. Ou ne devons-nous pas tout le temps comprendre que l'homme demeure même dans l'ami? Oui, c'est très délicat ça. Vous êtes en face de quelqu'un qui aime intensément quelqu'un d'autre. Il y aura très nettement certaines fois où vous direz cet amour n'est pas vrai. Prenez un homme marié qui se met à aimer intensément une autre femme mariée qui n'est pas son épouse. Vous pourrez tout de suite dire car au point de départ. Et vous direz, je vous affirme, je l'aime et je lui fais du bien. Bien. Vous êtes persuadé de ça? Sincérité. Est-ce qu'objectivement ça lui fait du bien? Quel est votre critère? Ce sera la même chose dans la vie apostolique. Une femme mariée se met à aimer beaucoup son confesseur, qui est un saint, admirable, intelligent, beau, par-dessus le marché. Elle se met à l'aimer, passionnément, mais passionnément, correctement, mais passionnément. Et vous vous poserez le problème, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est vrai? Quel sera votre critère? Pas la sincérité, intersubjectivité. Quel sera votre critère? Et vous devez, voyez? Donc je dois aller plus loin que la sincérité. C'est pas suffisant. Je dois constater que le vécu identifie sincérité et vérité. Mais le vécu ne me suffit pas. Je dois aller plus loin. Et je dois saisir qu'il y a autre chose que le vécu. Au niveau du vécu, c'est très vrai. Sincérité et vérité sont identiques. Mais je dois aller plus loin. Pourquoi? Parce que l'amour atteint une réalité. Et que l'amour d'amitié n'est pas que le vécu, c'est l'ami. Alors, je dois me demander si par rapport à ce bien qui est l'ami, mon amour d'amitié ne nuit pas à sa dignité de personne. Alors, j'ai un critère très pratique, vous voyez. Si l'amour que vous avez pour une personne mariée diminue son amour pour son mari, sonnette d'alarme. Si, loyalement, elle dit non, au contraire, ça me permet de l'aimer plus. Alors à ce moment-là, vous pouvez avancer à petits pas. En étant attentif. voyez, vous êtes obligé de prendre un critère qui n'est pas un critère subjectif, mais objectif. C'est l'homme, c'est la femme, dans sa capacité d'aimer. La même chose pour l'amitié envers les religieuses. Est-ce que cette amitié permet à ce religieux d'être plus religieux? Ou au contraire, est-ce que cette amitié le fait détourner de sa vie régulière, de sa vie religieuse? Oui, c'est un premier petit critère très simple et très direct, celui-là. Si l'amour d'amitié que vous avez pour un frère vous détourne de la régularité de la vie religieuse, sonnette d'alarme. Si cet amour d'amitié vous rend au contraire plus observant, plus religieux, plus profondément donné, alors à ce moment-là, c'est différent. Il vous permet de mieux travailler, et vous permet d'être plus donné à l'oraison, et vous permet d'aller plus loin dans le don de vous-même et la générosité par rapport aux autres, et ainsi de suite. Alors il devient source positive d'amour. Et vous pouvez croire que ce moment-là, que ce n'est pas un critère uniquement de sincérité, mais objectif. Et c'est très important, ça, point de vue pratique. Pas la peine d'en faire toute la théorie, vous comprenez. Mais soi-même, on doit en faire la théorie. C'est la différence entre l'ami et l'homme. Entre le bien que j'aime et mon amour que j'ai pour lui. Comme l'amour implique la réciprocité dans l'amour d'amitié, la réciprocité dans l'amour d'amitié n'est pas mesure de mon amour d'amitié. C'est l'ami en tant qu'homme qui est mon bien. Ça, c'est très important au point de vue pratique. C'est même capital. Si on veut avoir un peu de lucidité. Évidemment, si on ne veut pas la lucidité, on fonce. Je dis, je suis sincère, puis on se casse la tête. Au niveau des vertus, est-ce que l'amour peut être mesuré par les vertus? L'amour. Oui, elles ordonnent, donc elles sont relatives. Et l'amour me fait toucher la fin. Voyez, un garçon qui commence à aimer une jeune fille, qui elle-même est déjà aimée d'un autre, sont deux à courir après. Alors ça vous fait. Gambader à toute vitesse. Est-ce que la mère qui sait ça dit non, Gousse, sois prudent. Vous croyez que quelqu'un qui aime entend un langage de prudence? S'il est très respectueux vis-à-vis de sa mère, il dit oui. S'il n'est pas respectueux, il dit occupe-toi de ce qui te regarde. La vertu ne mesure pas l'amour. Je vois ce que vous voulez dire, hein? Mais ce n'est pas un critère. Le critère ne peut être qu'un autre amour. Faut discerner la sincérité et la vérité. Il me semble. Ça ne peut être qu'un autre amour. Autrement, je tombe dans une moralisation. Et je ne peux pas moraliser l'amour. Si je moralise l'amour, je le tue. Ou je tue celui qui aime, ce qui est encore mieux. Très important, vous voyez. sincérité, vérité. Comment? La sincérité est uniquement dans le vécu. Et dans le vécu, elle s'identifie avec la vérité intersubjective. C'est pas la vérité tout court. C'est pas le commode à vivre. Hein? Discerner la sincérité de la vérité, il faut dépasser le vécu. Comme pour discerner au niveau de la connaissance spéculative, l'appréhension du jugement, il faut dépasser ce qui est assimilé. Parce qu'elles sont tellement bien dans le vécu, tellement plus agréables. Oui, c'est le petit chat qui ronronne auprès du feu. Pourquoi le petit chat, quand il ronronne auprès du feu, ne cherche-t-il pas des souris? Parce qu'il est très heureux de ronronner auprès du feu. Alors que sa finalité, c'est de chercher les souris. C'est une fausse finalité de ronronner auprès du feu. Oui.
Est-ce que la sincérité n'apparaît pas de façon explicite dans le monde de l'art, dans la connaissance artistique, en sorte que...
La quoi, la...
La sincérité.
Oui.
En sorte que l'idéa qui produit l'œuvre d'art est immanente de l'auteur. Et de même dans la vie artistique, quand on juge...
Non, elle n'est pas tout à fait immanente. Elle est immanente à l'artisme, pas à l'œuvre. C'est la différence. Mais... Il y a des causes exemplaires, donc elle n'est pas immanente. Vous ne pouvez pas dire que votre premier amour est cause exemplaire de votre choix. Il est présent, immanent. Quoi ? La vérité de l'œuvre d'art, c'est d'être conforme à l'intention de l'artiste dans son idéal. Et ce n'est pas
une sincérité.
Non. Pas de sincérité. L'artiste est sincère quand il travaille, mais il ne dira pas qu'il est vrai. Il dira, je ne peux pas faire autrement. C'est beaucoup plus simple. Oui ? Parce que l'artiste ne cherche pas premièrement la vérité, vous voyez. Dans le point de vue de l'amour, on touche notre fin, et donc nous cherchons à être vrai. C'est pour ça que le duel entre sincérité et vérité, c'est pas au niveau artistique, c'est au niveau moral, éthique. Vous ne pouvez jamais reprocher à un artiste d'être sincère. S'il n'est pas sincère, il n'est pas artiste. C'est nécessaire que l'artiste soit sincère. S'il ne travaille pas avec sincérité, il n'est plus un artiste. Alors, je suis d'accord avec vous que la sincérité chez l'artiste apparaît avec beaucoup de force. Parce que c'est justement c'est propre de l'artiste. Tandis que c'est beaucoup moins fort par rapport à l'homme moral. Quand vous dites, je dois faire ça, je fais ça de mon mieux, je dois le faire, l'impérium, ça prouve que vous n'êtes pas très sincère. Ça coule pas de source. Bon. Alors. Voyez donc toute la gamme de la vérité. Et c'est très important de comprendre toute cette gamme pour comprendre les modalités différentes de la vérité. Cela touche le problème du jugement. Parce que nous avons vu que le jugement implique une adhésion. Et pour qu'il y ait vérité, il faut qu'il y ait une adhésion. L'intelligence connaissante à la réalité connue. Alors, je peux me poser la question. Y a-t-il des jugements évidents? Y a-t-il des jugements non évidents? Y a-t-il des jugements sincères, certains? Y a-t-il des jugements non certains? Alors, je regarde d'abord l'évidence. Un jugement est évident quand l'attribut est attribué au sujet. Nécessairement, immédiatement. Quand la qualité inhérente à Pierre ne m'apparaît pas évidente, c'est un jugement évident parce que homme est contenu directement dans Pierre, sans aucun intermédiaire. Donc, Pierre est un homme, cette réalité Pierre, quand j'affirme est évident, quand j'affirme qu'il est un homme, ça saute aux yeux. Et c'est ce qu'on dirait, ça saute aux yeux. C'est le coup de foudre intellectuel, l'évidence. Vous êtes saisi. J'avais pas compris. Mais tout ce qui immédiatement détermine l'intelligence. Ça, c'est l'évidence. Immédiate. Et notre connaissance part d'un jugement d'évidence immédiate dans ceci. Mais ce n'est pas du tout l'a priori. Faisons attention. Un jugement d'évidence n'est pas l'a priori. L'a priori conscient. Ce n'est pas l'a priori. Pourquoi? Un jugement est dit a priori quand justement il n'est pas évident. Et qu'il a besoin de s'appuyer sur l'autorité de quelqu'un. tirer ce jugement. Et a priori, il repose sur telle autorité, il repose sur l'opinion de la majorité, reposant sur l'opinion de la majorité. J'y adhère, mais je n'y adhère pas à cause de lui, mais à cause d'un autre. Quand un de vos amis va, je ne sais pas, à New York, qu'il vous rapporte quelque chose, j'ai vu à New York quelque chose d'étonnant, quelque chose de merveilleux. La Statue de la Liberté, avant d'entrer à New York. Alors maintenant, je comprends la liberté. Avant, je ne comprenais pas. Mais depuis que je l'ai vu, je comprends. Je comprends la liberté. Je comprends qu'elle fascine la liberté. Je comprends. Bon. Vous recevez ça, vous n'avez aucune évidence, parce que vous ne l'avez pas vu. Mais vous y croyez à cause de l'ami. Oui, je te crois. C'est tout. Et donc, c'est une évidence médiatisée par un autre. Pas une évidence immédiate. Elle repose sur l'autorité de l'autre, a priori. Alors, pour vous, ce sera un a priori. Dès que vous donnez vos sources, c'est autre chose. Vous croyez à cause de l'autre, vous le dites. Mais quand vous ne le dites pas, c'est un a priori. Et surtout quand vous l'avez oublié, c'est encore mieux. Vous dites telle chose à cause de l'opinion d'un autre. Vous avez complètement oublié que c'était lui qui vous avait dit ça. Et vous continuez de répéter. Oui, c'est comme ça. Mais je vous affirme, c'est comme ça. Mais vous l'avez vu? Ah non. Alors, il n'y a pas d'évidence. Des quantités de personnes sont comme ça. Elles ont complètement oublié dans quel salon elles avaient reçu telle touche de vérité. Et elles le répètent. Ce sont des a priori. Alors ça met des œillères. Tout ce qui est en dehors. Que je sais sur quoi repose mon adhésion, ce n'est pas un a priori, c'est un jugement de foi. Je crois à cause de ce qu'il m'a dit. Mais le jugement a priori que Jésus décèle en Pilate, dis-tu ça de toi ou d'un autre te l'a dit? La manière dont Pilate disait, c'est un a priori. Tu es le roi des Juifs. C'est pas marqué sur son front. Donc, un jugement est évident quand il repose, quand il y a une connexion nécessaire entre les deux. Connexion nécessaire. Dès qu'il n'y a plus de connexion nécessaire, il faut un métaxu, un intermédiaire, pour permettre l'adhésion. Alors à ce moment-là, vous avez toute espèce de jugement. Le jugement comme ici qui repose sur l'opinion d'un autre. Un jugement de foi. Un jugement d'opinion. Ou, au contraire, ça repose sur le raisonnement que vous avez fait. Alors c'est une évidence médiatisée par le raisonnement. Elle reste scientifique. Tandis que l'évidence médiatisée par l'opinion n'est pas scientifique. Une conclusion scientifique est évidente par l'intermédiaire d'un raisonnement. Et c'est une conclusion évidente par l'intermédiaire d'un raisonnement. C'est une démonstration. La certitude, au contraire, est quelque chose de subjectif. Donc, ça c'est du côté objectif. La certitude, c'est quelque chose de subjectif. C'est le sujet connaissant qui est qualifié. C'est ça qu'on appelle la certitude. La certitude peut provenir ou de l'évidence ou d'un élément extrinsèque. L'amour que j'ai pour celui qui me parle. Je suis incliné à recevoir ce qu'il me dit de façon plus positive que si c'était mon ennemi. Ah, vous voyez tout de suite la différence. Un ami qui vous dit quelque chose, vous l'acceptez tout de suite, sans critique. Un ennemi qui vous le dit, vous voulez critiquer. Est-ce que c'est bien sûr? Donc, la certitude peut provenir ou de l'évidence, d'une manière objective. D'un autre qui me parle, d'un autre qui me certifie. Lui repose sur l'évidence et me communique son évidence. Et donc il y a une certitude. Vous voyez, dès qu'il y a un autre qui me parle, il y a un élément nouveau qui intervient à la volonté. Je ne peux être certain en me servant d'un intermédiaire, l'autorité, que par la volonté. J'aime cet autre qui me parle. J'ai confiance en lui. Je crois ce qu'il me dit. Il peut voir des quantités de choses que moi je ne peux pas voir, alors je crois. En politique, c'est tout le temps comme ça. On vit dans un faisceau d'opinions, avec quelquefois des certitudes extrêmement fortes qui reposent sur très peu de choses. Donc distinguons toujours bien évidence et certitude. Il faut d'abord. Il faut en avoir l'évidence. Il faut avoir l'évidence que l'évidence est premier dans notre vie intellectuelle. Et que tout l'édifice que nous avons fait repose sur l'évidence. Ceci est. Mais il y a quelque chose de plus. C'est qu'il faut bien comprendre que le point de vue de l'évidence qualifie proprement l'intelligence comme telle et permet au jugement d'intelligence d'avoir une intensité beaucoup plus grande. Mais parfait comme jugement qu'un jugement qui repose sur l'évidence. Tandis qu'au contraire, la certitude n'est pas strictement intellectuelle, elle est probablement affective. Un homme de certitude, c'est un grand affectif. Un grand savant, c'est un homme d'évidence. Et ça se verra tout de suite, ça, dans l'enseignement. Si vous basez votre enseignement sur ce que vous dites par mode d'expérience, ou si vous basez votre expérience sur l'autorité d'Aristote, vous êtes très heureux de le retrouver de temps en temps, mais votre compte ne se base pas sur Aristote, se base sur l'expérience. Mais pour beaucoup, ça se base sur la certitude. Et donc ça diminue la qualité de l'intelligence. Une certitude qui repose sur la volonté et sur l'opinion d'un autre peut très bien arrêter le développement de l'intelligence. Quand on est trop séduit par un maître, ça peut arrêter le développement de l'intelligence. Parce que l'intelligence garde son indépendance et doit redécouvrir le même itinéraire avec une certitude qui lui est propre. Ça, c'était des choses pratiques, mais extrêmement importantes, qui font comprendre très bien ce que c'est. Que la certitude, l'évidence, les a priori, Quand je dis n'ayez aucun a priori en philosophie, je veux dire ayez des certitudes. Ayez des évidences sur lesquelles reposera vos certitudes. Mais pas directement l'intelligibilité de la chose. Ceci pour préciser bien la différence entre évidence et certitude. Et bien montrer que les a priori, c'est une évidence perdue. Par l'intermédiaire d'un autre, par l'intermédiaire de sa propre expérience. Et, je dirais, c'est la mise entre parenthèses de l'évidence. Là, les a priori apparaissent. Là, on est en face d'a priori. C'est pour ça que le philosophe devrait faire la chasse de tous les a priori, pour qu'il sache toujours sur quoi il se repose, ou son expérience, ou l'expérience d'un autre, ou le fait qu'il a constaté, ou le fait qu'un autre a constaté, et il doit le noter. S'il est tout à fait limpide avec lui-même, et qu'il a cette très grande soif de vérité, ce qui conclut le point de vue du jugement. Et le jugement est capable de vérité, est capable de saisir tout ce qui peut de fait être la vie de la vie de l'intelligence. Au fond, c'est très curieux, hein, cette distinction entre évidence et certitude. Ça provient d'une intelligence qui mendie son bien par de l'expérience. Voyez, cette distinction, si je recevais des idées innées, j'aurais toujours l'évidence. Mais parce que mon intelligence, partant de l'expérience, elle part des réalités. Ces réalités n'étant pas là, d'autres qui ont l'autorité, l'autorité d'amis, peuvent suppléer à ces réalités. L'expérience externe, l'expérience interne. Et ça, c'est le problème de l'intelligence humaine. Cette intelligence humaine, pour progresser, a besoin de l'expérience externe et a besoin de l'autorité des autres pour progresser. Elle donne la main aux deux. C'est pour ça qu'il y aura toujours, dans le progrès même d'une connaissance philosophique, l'expérience et l'opinion des autres. L'opinion des autres m'éclaire toujours et m'aide. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Mais il faut que l'opinion des autres soit critiquée pour qu'elle ait sa valeur. Donc, l'évidence et la certitude doivent toujours se voir en parallèle pour comprendre mieux ce qu'est l'intelligence humaine qui mendie son bien de la réalité extérieure. Et tout repose là-dessus. On s'en restera là, puisque il faudrait maintenant ouvrir le troisième chantier de la création.